Et au menu de notre club cet après-midi, l'intelligence artificielle au service de notre vie privée, un forum science en Seine-Saint-Denis, des météorites et de l'art, et puis les nouvelles technologies sur le banc d'essai. Je vous présente mes invités dans un instant. Vient-on de franchir un pas de plus vers la jeunesse éternelle? Des scientifiques américains sont parvenus à prolonger de 30% l'espérance de vie de souris, en diminuant également l'apparition de maladies liées à la vieillesse, et le tout en nettoyant leur organisme des cellules sénescentes. C'est aujourd'hui à la une de la science. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée aujourd'hui par Carole Sauvage.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Intelligence artificielle, les défis scientifiques du 21e siècle, météorites et nouvelles technologies donc au menu de notre club. Rand Indy, Eric Rollet, Mathieu Gounel et Philippe Chambon, bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Rand Indy, est-ce que l'intelligence artificielle va être capable dans un futur proche de prédire absolument tous nos comportements?
Pas tout quand même. En tout cas, tout ce qu'on a l'habitude de faire de manière très machinale, c'est-à-dire ce qu'on fait sans réfléchir et habituellement. Par contre, ça ne va jamais réussir à anticiper ce que je réfléchis là tout de suite en réponse à ça.
Ouais, mais quand même, vous travaillez sur cette piste.
On travaille en tout cas sur une piste dans ce sens-là. Ouais.
Philippe Chambon, justement, ces nouvelles technologies qui émergent un peu partout comme celle de Rand Indy, elles nous promettent un monde meilleur. C'est quoi? C'est l'Eldorado des technosciences?
C'est une fois que l'homme sera débarrassé de toutes les contraintes et sera lui-même le produit parfait. Heureux, dans un monde meilleur.
Vous portez un regard assez amusé quand même sur tout ça.
Oui, vous vous souvenez du livre d'Huxley sur le meilleur des mondes, justement. Les gens vivent un enfer, mais ils sont heureux.
Donc on verra si ces techniques améliorent leur vie véritablement. Eric Rollet, ce sont des sujets de discussion pour vous, pour le forum scientifique demain à Romainville en Seine-Saint-Denis.
Avec un thème, ces progrès qui dérangent.
Ouais.
On a une continuité de ce que vous venez de dire, tout à fait.
Donc on est parfaitement dedans, ce sera de la matière pour vos invités demain. Mathieu Gounel, une exposition autour des météorites, mais sans avoir une seule en vrai, c'est la prouesse que vous réalisez depuis hier à la Galerie Épisodique à Paris.
Exactement.
Ouais. Donc là, c'est la rencontre entre l'art et le thème des météorites.
Oui, c'est une carte blanche qui m'a été offerte par Alexandra Roussopoulos à la Galerie Épisodique. Et l'idée, c'est de faire parler les météorites un peu autrement que d'habitude et surtout de faire s'exprimer les artistes.
Donc ça n'est pas tout à fait une exposition scientifique, mais on est bien sûr autour de ce thème qui nous intéresse et dont on va parler avec vous. Différents sujets également à aborder avec les auditeurs qui nous rejoignent. Les messages et les questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, des chercheurs américains qui ont donc augmenté la longévité chez les souris.
Le bébé qui pousse son premier cri en 1750 n'a que 25 ans d'espérance de vie. En 1910, c'est le double, 49 ans. 1960, on peut espérer vivre 68 ans. La perspective aujourd'hui est de 82 ans. Et la courbe va, paraît-il, poursuivre sa course, au point que ce scientifique affirme, sans sourciller, que l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être déjà né.
Voilà, c'est un des grands rêves de l'humanité, vivre sans vieillir. Alors même s'il n'est pas encore question de vie éternelle, des chercheurs de la clinique Mayo aux États-Unis ont donc annoncé avant-hier dans la revue Nature avoir réussi à allonger la durée de vie de souris et de mouches de près de 30%. Et pour réaliser cette prouesse, ils ont nettoyé le corps de ces animaux des cellules sénescentes. Nous sommes en ligne depuis la Croatie avec le généticien Miroslav Radman. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur de biologie cellulaire à la faculté de médecine René Descartes et spécialiste du vieillissement. Alors, qu'est-ce qu'on appelle exactement d'abord la sénescence, Miroslav Radman?
Les cellules sénescentes sont les cellules bien vivantes qui métabolisent, qui marchent bien, sauf elles ne peuvent pas se diviser. Elles ont un arrêt de division irréversible, condamnées à ne pas se diviser.
Et donc, quel résultat?
Le résultat de la présence excessive de ces cellules sénescentes qui s'accumulent avec l'âge, c'est qu'elles ont un mauvais effet sur d'autres qui ne sont pas encore sénescentes. Et d'où l'intérêt de ce travail qui est sorti dans le journal Nature, qui d'une façon absolument ingénieuse ont réussi à détecter et éliminer spécifiquement les cellules sénescentes, de purifier l'organisme de la souris des cellules sénescentes.
Alors, comment ils ont procédé, justement, Miroslav Radman? D'abord sur des souris qui ont été génétiquement modifiées.
Ça veut dire le premier travail de 2011 a été fait sur les souris progériques, ça veut dire qui souffrent d'un syndrome de vieillissement accéléré. Mm-hmm. Cette fois-ci, ils ont fait la même manip, mais sur la souris normale. Et le résultat est aussi spectaculaire.
Alors, quel est le résultat exactement? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu comme durée de vie? On a parlé de 30% d'espérance de vie en plus, et puis également un impact sur les maladies, c'est-à-dire qu'on a eu deux résultats sur la même manipulation?
Voilà, ce n'est pas la prolongation de la vie dans la dégénérescence, mais de la vie saine. Ça veut dire que l'apparition des tumeurs a été... Il y avait un délai dans l'apparition de tumeurs, un délai de dégénérescence de rénale, cardiaque, de cataracte, etc. Mm-hmm. Donc c'était la prolongation de la vie saine. Mm-hmm. Et c'était pas une mince affaire de construire les systèmes où on va d'une façon volontaire, avec une injection d'une molécule, éliminer seulement les cellules sénescentes.
Oui. Alors comment vous recevez justement cette publication dans Nature, Miroslav Radman, parce qu'évidemment ce thème du prolongement de la vie vous intéresse vous énormément. C'est vraiment un beau coup, c'est une belle publication pour vous?
C'est une très belle publication et elle indique que le processus d'inflammation, qu'on sait bien qu'il est associé avec le vieillissement, mais il est qu'il est à la cause même du vieillissement. Ça veut dire que les cellules sénescentes sont toxiques pour l'organisme entier parce qu'elles sécrètent les facteurs pro-inflammatoires qui induisent l'inflammation, et l'état inflammatoire est extrêmement toxique. Elle est cancérogène, elle détruit la qualité de cellules normales et contribue au vieillissement. Donc une fois qu'ils ont enlevé la source de signal inflammatoire, une partie, hein, le reste il est là, et heureusement pour la souris, parce que l'inflammation est cruciale et nécessaire pour nous débarrasser des bactéries et des virus.
Oui.
C'est une activité de système immunitaire pour éliminer les bactéries et éliminer nos propres cellules quand elles sont infectées par le virus et quand elles deviennent les usines à virus.
Miroslav Radman, il y a une question justement pour vous de Philippe Chambon autour de cette manipulation.
Oui, bonjour. Je voulais vous demander, quels sont les effets indésirables sur les souris de cette amélioration? Est-ce qu'il y en a?
Indésirable, il mentionne une seule, que la réponse que la cicatrisation des plaies est ralentie. Ah, voilà. C'est le seul handicap qu'ils ont mentionné dans le travail. Mmh. La cicatrisation est un peu handicapée.
Bon. Miroslav Radman, est-ce qu'on peut évidemment espérer pouvoir transposer ces résultats à l'humain dans les années qui viennent, ou est-ce qu'on en est encore bien loin?
On est encore loin, mais je suis optimiste. Ça veut dire qu'on va pas utiliser le système et les gènes, la construction génétique qu'ils ont utilisé pour la souris, mais la connaissance fondamentale qu'on acquiert avec les expériences comme celle-ci va nous servir un jour à ralentir le processus du vieillissement. Car il n'y a rien, aucun argument scientifique qui dit que la vie de n'importe quelle espèce est strictement limitée à ce qu'on pense ou à ce qu'on mesure. Mm-hmm. Donc la durée de vie est extensible.
Donc c'est la compréhension de ces mécanismes qui sont intéressants aussi, évidemment, au-delà même du résultat, hein, pour comprendre les effets du vieillissement. Voilà, 30% de vie en plus pour ces souris. Ben, c'est un résultat qui est loin d'être négligeable et qui est la prouesse donc de chercheurs américains. Publication donc dans la revue Nature. Merci beaucoup à vous, Miroslav Radman, en direct depuis la Croatie. Merci pour votre éclairage. À bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une équipe d'archéologues tchèques a découvert de son côté les restes relativement bien conservé d'un navire vieux de 4500 ans près de la nécropole des pyramides d'Abouzir au sud du Caire. Embarcation de 18 mètres de long, découverte près d'une sépulture abritant traditionnellement des notables importants dans l'Égypte antique. Les archéologues espèrent trouver d'autres sépultures et des navires de ce genre afin de mieux comprendre les techniques de construction des bateaux dans l'Égypte antique et leur place dans les rites funéraires. Un immense amas de gaz se dirige actuellement à la vitesse de 310 km par seconde en direction de notre Voie lactée, baptisé Smith Cloud en référence à l'astronome Gale Smith qui l'a découvert en 1963. Ce nuage d'un diamètre de 10 000 années-lumière et de 2 millions de fois la masse du Soleil devrait percuter notre galaxie d'ici 27 millions d'années. Et selon les scientifiques, ce nuage serait issu de la Voie lactée, en aurait été expulsé puis attiré vers son centre. Le choc entre ces deux masses de matière pourrait aboutir à la naissance de plusieurs milliers d'étoiles. Et puis enfin, des entomologistes américains ont donné le nom du chanteur de musique country Johnny Cash à une nouvelle espèce d'araignée, une tarentule noire, récemment découverte. La créature à 8 pattes, baptisée Aphonopelma Johnny Cashy, est entièrement noire, tout comme s'habillait l'artiste disparu en 2003. Allez, le club de la tête au carré dans un instant.
And right now Babylon dep on me case.
People in a shell, all lined in a row. We just push on by. It's funny how hard we try. Take a moment. Wanna know me? Be a friend of mine. I'll share some wisdom with you. Don't you ever get lonely from time to time. Don't let the system get you down.
Big city life, me try forget my pressure now ease up no matter what me try. Big city life in my heart.
Across the seas and the oceans, a permanent itinerant is what I've chosen. I find myself in a big city prison, arisen from the vision of mankind, designed to keep me discreetly, neatly in the corner. You find me with the flora and the fauna and the hardship. Back a yard is where my heart is. Still I find it hard to depart this big city life.
Big city life, me try forget my pressure now ease up no matter how hard me try. Big city life in my heart. And right now Babylon dep on me case. Big city life, try forget my pressure now ease up no matter what me try. Big city life, my heart have no base. And right now Babylon dep on me case. Big city life, me try forget my pressure now ease up no matter what me try. Big city life, in my heart have no base. And right now Babylon dep on me case. Big city life.
City Life, Matafix et Thierry Dupin pour la programmation musicale de ce club.
Le club des têtes au carré, en partenariat avec TEDx Paris, sur France Inter.
Et au menu donc du club cet après-midi, intelligence artificielle, nouvelles technologies, les défis scientifiques de demain et puis une exposition artistique autour des météorites. Alors mes invités, Éric Rollet, vous êtes le président d'Inexcence qui a pour mission de mettre à la portée du grand public des débats culturels et scientifiques. Et c'est précisément ce que vous allez faire demain à l'occasion de la 8e édition du forum Sciences et défis du 21e siècle. C'est à Romainville, hein, en Seine-Saint-Denis. Mathieu Gounel, vous êtes cosmochimiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, membre de l'Institut Universitaire de France, et vous êtes donc à l'origine d'une exposition à voir en ce moment, Météorites, nos plus lointains souvenirs. C'est à la Galerie Pisodic dans le 11e jusqu'au 27 février. Philippe Chambon, vous êtes journaliste scientifique, on vous retrouve, hein, vous avez même été chroniqueur dans la tête au carré il y a quelques années. C'est ça, ancien rédacteur en chef adjoint de Science et Vie, et là vous publiez chez Webec, Vive le meilleur des mondes. Et puis Rand Endy, vous êtes data scientist et cofondateur de la start-up Snipes. C'est quoi un Snips. C'est quoi un... Oui, alors du coup je ne savais pas comment le prononcer. C'est quoi un data scientist ou un data scientifique alors pour le coup?
C'est quelqu'un qui est un petit peu entre un mathématicien et un informaticien. Ouais. C'est-à-dire qui sait manipuler des nombres, qui sait manipuler des algorithmes, mais qui sait le faire en fait avec des outils informatiques et à très grande échelle.
C'est avec vous qu'on va ouvrir ce club. Vous étiez le 1er novembre dernier sur la scène du TEDx Paris au Théâtre du Châtelet pour une conférence intitulée « Pour profiter de la technologie, faisons-la disparaître ».
Le monde tel que je l'imagine et tel que j'aimerais qu'on puisse le vivre plus tard, c'est un monde où la technologie est devenue tellement intelligente, tellement intégrée dans nos vies, où elle a littéralement disparu. C'est-à-dire qu'elle est partie en arrière-plan. Elle nous a donné la sensation d'être déconnectée en permanence, comme quand on est à la plage, tout en gardant les bénéfices qu'elle puisse apporter. Et ce monde, c'est important. C'est important car, finalement, plutôt que de devenir addict à la technologie, on pourra être maître de ses propres choix. Et être maître de ses propres choix, d'une certaine façon, ça veut aussi dire être libre d'être qui on veut. Merci.
Voilà une grande promesse de liberté, Rand Endy. Alors il faut préciser qu'en juin dernier, vous avez levé 6 millions de dollars pour votre start-up, donc Snips, qui est spécialisée en intelligence artificielle. Qu'est-ce qui émoustille tant les investisseurs comme Xavier Niel, par exemple, pour ses recherches dans ce domaine?
Je pense qu'en ce moment, il se passe pas mal de choses en intelligence artificielle. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ça a été relativement plat en termes de progression. Et il y a eu une convergence avec des nouveaux algorithmes, de la puissance de calcul quasiment gratuite et un nombre de données énorme qui a été mis à disposition, ouais, qui a fait que d'un coup, on a pu créer finalement des algorithmes intelligents. Ouais. Et vu que ça s'est passé dans les 5 dernières années, je pense que c'est pour ça qu'on a vu autant d'engouement là-dedans.
Alors, vous nous promettez beaucoup de liberté, mais alors pourquoi, comment exactement, qu'est-ce que vous allez mettre au point pour cela? Parce qu'il y a un constat, c'est d'abord qu'on est entouré d'objets de plus en plus nombreux, connectés effectivement, et qu'à un moment précisément, rien qu'à cause des mathématiques, on va devenir fou parce qu'il y a trop de données qui sont émises par ces objets.
Exactement. L'intelligence artificielle, c'est très large comme domaine. Ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Nous, on s'intéresse beaucoup plus particulièrement à... comment est-ce que les objets connectés qui nous entourent et qui vont nous entourer de plus en plus, finalement, interagiraient avec nous s'ils étaient dotés d'une intelligence artificielle qu'on dit contextuelle? C'est-à-dire finalement que ces objets soient capables de comprendre la situation autour d'eux et de s'adapter en fonction.
Donc c'est donner une nouvelle intelligence à ces objets, en somme?
C'est leur donner une intelligence tout court.
Ouais. Et alors comment vous allez procéder pour ça?
Donc en fait, c'est pas très compliqué conceptuellement. Ce qu'on fait en premier, c'est qu'on va prendre tous ces objets, on va les faire communiquer entre eux, pour qu'en fait, ils soient capables d'échanger et de mettre en commun toute la donnée de tout ce qu'eux sont capables de capter. Donc tous les objets, finalement, ont aussi des capteurs de quelque chose. Ouais. Une fois qu'on a toute cette donnée qui est mise en commun, on est capable de comprendre en fait le contexte actuel. Et une fois qu'on a ce contexte, on a une deuxième IA qui vient par-dessus, qui va essayer d'analyser comment est-ce qu'un individu se comporte dans telle ou telle situation pour commencer un petit peu à automatiser et à anticiper ses intentions futures.
Philippe Chambon vous écoute attentivement, évidemment, parce que c'est un spécialiste, un observateur des nouvelles technologies.
Je suis fasciné, je trouve qu'il y a une, comment dire, un investissement intellectuel et financier dans ces domaines qui est absolument fascinant. Ouais. Moi, la question que je pourrais me poser, c'est quel est le but ultime, finalement, pour l'instant...
Nous rendre libres, il l'a dit là tout à l'heure, vraiment.
Libre dans quel contexte? Et qu'est-ce que... la liberté, enfin bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est... jusqu'ici, les outils informatiques servent avant tout au contrôle. servent avant tout à nous mesurer. Mmh. À partir du moment où ils sont encore là, on peut encore éteindre son portable, je veux dire, on peut encore se mettre un peu en retrait. À partir du moment où ces objets deviennent intelligents, omniprésents, etc.
Et autonomes aussi.
Et autonomes, comment on fait pour y échapper? Comment on fait pour ne pas être sous le regard de son assurance maladie, sous le regard de son policier, sous le regard de son...
Ce qui est exactement le contraire de la liberté, là, pour le coup.
Son contrôleur fiscal, hein. Je sais pas quoi.
Ouais. Alors, Randindi.
Je pense qu'il y a deux questions là-dedans. Déjà, c'est parfaitement légitime de se demander comment est-ce qu'avoir plus de technologie, finalement, peut nous donner la sensation qu'on est un petit peu moins prisonnier de cette technologie.
Ça paraît paradoxal au départ.
C'est complètement paradoxal, ouais. Je suis absolument d'accord. Et ça, c'est très particulier à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de dire il y a une technologie qui est statique, qui est la même pour tout le monde et donc du coup qui devient explicite, ce qu'on dit ici, en fait, c'est que la technologie s'adapte à chacun. Mmh. Et donc ça devient, en fait, finalement, une espèce de reflet digital de qui on est nous-mêmes. Mmh. Qui on est par rapport au monde avec lequel on interagit. Donc en fait, ce n'est pas une tierce personne, cette intelligence. C'est vraiment juste une extension technologique de ce qu'on aurait fait autrement. Donc c'est pour ça que ce paradoxe, en fait, finalement, il a un petit peu du sens. C'est qu'on est juste en train de dire, bah, si je me téléporte, entre guillemets, dans ces objets, bah, ils vont faire ce que moi j'aurais fait de manière manuelle et explicite.
Ouais, alors, sauf que comment vous garantissez précisément, là aussi, la confidentialité des données? Parce qu'on en revient toujours au même, effectivement. On génère énormément de data, de données. Et là, vous nous dites qu'on sera libre et qu'en plus, on sera protégé dans ces données.
Ouais, alors, soyons d'accord, le but de ce genre de technologie, c'est de absolument tout savoir sur une personne pour être capable d'anticiper ses moindres phrases et gestes. Hein, donc, vraiment, de créer un miroir digital de qui cette personne est. Ça, c'est impossible si jamais ces données-là, elles flottent et qu'elles sont accessibles par n'importe qui. Il y a deux technologies clés que nous, on met en œuvre et qui sont aujourd'hui possibles. La première, c'est qu'on fait la majorité des calculs directement sur l'objet qui a produit la donnée. Donc, par exemple, sur un smartphone...
Donc, ça ne sort plus de l'objet ?
Ça ne sort pas de l'objet, exactement. Donc, sur un smartphone, on récupère la géolocalisation qu'on va traiter sur le smartphone et qui, en fait, ne sera jamais envoyée dans le cloud. Donc, si quelqu'un voulait accéder à cette donnée-là, bah, il faut qu'il vole le smartphone de la personne et puis, de toute façon, il a accès à tout à partir de là. La deuxième chose qu'on fait, et ça, c'est très important, dans les cas où on ne peut pas tout faire sur un téléphone, imaginons, on a... je sais pas, plusieurs objets qui veulent communiquer. Et il doit faire des calculs très intenses dans le cloud. En fait, il y a une nouvelle technique de cryptographie, et ça c'est vraiment incroyable, qui s'appelle le chiffrement homomorphe. Et l'idée, c'est qu'on chiffre en fait la donnée sur l'objet connecté qui l'a produite, elle envoie ces données chiffrées dans le cloud, qui lui du coup n'a pas la clé de déchiffrement, mais est quand même capable de faire des opérations mathématiques sur cette donnée chiffrée. Il produit un résultat qu'il ne comprend pas, qui renvoie du coup à l'objet qui lui seul peut déchiffrer et interpréter.
Bon, j'espère que tout le monde nous suit, mais en tout cas, bon, c'est une des garanties que vous proposez.
Ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable de faire des calculs sur de la donnée qu'on ne voit pas.
Ouais. Et alors, oui, donc effectivement, et ces données pourtant, c'est un marché colossal, parce qu'on monnaie évidemment aujourd'hui ces données. Donc vous vous privez, vous, de ce marché en disant, bah, précisément, notre vertu, c'est de vous garantir qu'on ne les vendra pas.
Mais moi, j'irais même plus loin. Si on est capable de faire les choses dans le cloud sans avoir accès à la donnée de base, c'est que la seule raison pour laquelle on voudrait avoir accès à cette donnée, c'est ou bien qu'on n'est pas compétent techniquement, et donc auquel cas, de toute façon, il ne faut pas faire confiance à l'entreprise pour sa donnée personnelle, ou bien qu'on cherche à vendre cette donnée, ce qui n'est absolument pas acceptable. Aujourd'hui, quasiment tous les business models qui sont alignés avec une valeur ajoutée pour l'utilisateur final peuvent être faits du coup avec ce qu'on appelle du privacy by design, donc de la confidentialité dans l'élaboration même du produit et des algorithmes.
Alors Randindi, on va essayer de parler concrètement pour donner un exemple aussi aux auditeurs. D'abord pour dire que vous avez déjà créé sur des applications, par exemple le Tranquilien, c'était une application qui permettait d'identifier les transports en commun d'Île-de-France les moins bondés. Mmh. Vous avez également bossé avec La Poste pour comprendre pourquoi certains de ces bureaux connaissaient parfois des pics de fréquentation inhabituels. Donc là, on voit bien l'exemple concret. Vous, maintenant, avec votre projet là en développement, qu'est-ce que vous nous promettez sur toutes ces données qu'on génère tous les jours avec notre smartphone, tout au long de la journée? Qu'est-ce que vous allez en faire alors?
Donc nous, notre objectif, c'est de mettre cette intelligence dans tous les objets connectés dans le futur. Le premier objet connecté, finalement, que tout le monde a aujourd'hui, c'est un smartphone. Mmh. Et quand on remplace le mot « service » dans un objet connecté par « application », en fait, ce qu'on réalise, c'est qu'il y a le même problème au niveau du téléphone tout seul. Il y a des applications qui sont complètement en silo, qui chacune contiennent une certaine forme de données, qui chacune propose un service particulier, et en fait, elles ne se parlent pas entre elles. Le résultat, c'est que la manière dont on interagit avec son téléphone, c'est qu'on est tout le temps en train de jongler entre 15 applications, copier de la donnée dans un email pour la mettre dans une application de Maps, et ainsi de suite. Ce qui n'a absolument aucun sens, parce qu'en fait, toute cette donnée-là, elle existe dans le téléphone.
Ce que nous on fait, c'est très simple. On va agréger la donnée de toutes ces applications, la traiter en local sur le téléphone portable et faire remonter des raccourcis vers le contenu à l'intérieur des apps les plus pertinentes en fonction de ce qu'on cherche à faire à un instant donné.
Donc vous allez nous faire gagner du temps, en fait, c'est ça ?
Et en fait, ce que j'aimerais, c'est faire disparaître la quasi-totalité des interactions qu'on a avec le smartphone. Donc ouais. Au lieu de s'en servir 1000 fois par jour, on s'en servira peut-être 50.
Éric Rollet.
Oui, c'était très intéressant. D'ailleurs, il faudra qu'on se parle après. Je suis dans un très gros programme de tourisme. Mm-hmm. Donc, je vois bien tout de suite le potentiel qu'il y a à utiliser ça dans le tourisme. Et si je comprends bien ce qui est discuté dans notre think tank, c'est que en se connectant mieux, plus efficacement, on pourrait se reconnecter avec la nature, avoir plus de temps, peut-être voir ces technologies nous guider vers la nature, la découverte de parcs ou de chemins de randonnée, qu'aujourd'hui, ce monde urbanisé a moins tendance à faire. Voilà, on peut imaginer genre de choses dans votre philosophie.
D'ailleurs, en fait, c'est amusant, mais l'idée de commencer à écrire et à parler de ce concept de faire disparaître les technologies, elle m'est venue quand j'étais en vacances au Costa Rica, parce que j'étais sur la plage et dans la jungle, en fait, il n'y avait pas de réseau. Donc j'étais déconnecté de facto, obligé d'être déconnecté. Et ça m'a fait réaliser que c'était des moments qui étaient devenus rares, mais qui n'étaient pas forcément obligés. C'est pas forcément obligé que ce soit rare. On peut en fait créer justement beaucoup plus de temps libre si on est capable de déléguer une grande partie de ces frictions du quotidien qui, en fait, ne nous apportent rien en termes de valeur personnelle, qui ne sont qu'une perte de temps nette, qui est en fait une conséquence d'une technologie statique, non intelligente. Donc, enfin ouais, moi, ce que j'aimerais, c'est passer plus de temps au Costa Rica, clairement.
Bon, bah écoutez, en tout cas, voir comment tout ça se développe avec votre start-up Snips, dont on peut découvrir vraiment eh bien, toute la nature et l'essence sur le TEDx Paris, avec cette vidéo qui avait été tournée donc, à l'occasion de votre venue sur la scène du Châtelet. Et puis, Philippe Chambon, on va regarder ça avec attention. Ça fait partie vraiment des nouvelles technologies de demain.
Hein. Oui, c'est curieux qu'il y a à la fois un souci dans votre projet de faire en sorte que les données soient pas facilement distribuable ou qu'elle ne soit distribuée qu'à des gens qui éventuellement auraient le droit d'y accéder. Ce qui est curieux, c'est surtout la façon dont finalement les gens s'en moquent un peu, quoi. C'est-à-dire que quand on prend son smartphone et qu'on regarde toutes les applications qu'on a téléchargées, toutes ont notre position, nos mails, nos photos. Ils demandent l'autorisation, mais tout le monde la donne, l'autorisation. Si on la donne pas, on n'a plus d'appli, il n'y a plus rien. Il reste un métronome, c'est
réponse
tout.
Rapide.
C'est vrai. Et en fait, la raison pour laquelle tout le monde le donne, c'est qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir le choix. Et en réalité, il faudrait que personne n'ait à se poser la question de leur confidentialité parce que ça devrait être par défaut dans tous ces produits-là.
Effectivement.
Éric Rollet, voilà donc un thème de discussion hein, tout trouvé pour vous demain, 8e édition du forum Science et défis du 21e siècle, Romainville en Seine-Saint-Denis, dans les salons de l'Hôtel de Ville, avec ce thème, donc ces progrès qui dérangent. Hein, on est vraiment dedans là pour le coup.
Complètement.
Ouais. Pourquoi vous avez choisi ce thème pour cette édition ?
Oh bah parce qu'on se pose beaucoup de questions à travers déjà la notion de progrès. Effectivement, il n'y a pas que la technologie, hein, il y a la génétique, enfin tout ce que vous traitez, Mathieu, dans votre émission hein, toute l'année. C'est évident qu'on se pose beaucoup de questions éthiques, hein, beaucoup de questions sur les effets secondaires d'une avancée de la connaissance, d'une découverte. Donc là, bon, évidemment, on peut pas tout balayer en une après-midi à Romainville. Romainville, c'est une ville qui investit beaucoup dans le développement durable et qui va lancer un produit pilote sur l'agriculture urbaine en France. Donc c'est vraiment un modèle. Et là, on peut se poser beaucoup de questions, ne serait-ce qu'à travers cette innovation. À quel besoin elle répond? Qu'est-ce qu'elle peut engendrer comme espoir? Mais aussi, qu'est-ce qu'il va falloir maîtriser autour de ça?
Ça suscite beaucoup de questions dans le public, d'ailleurs. Vraiment.
Alors, l'intérêt du forum Science et Défis, c'est une bonne question. C'est que quand on rentre dans la salle, on n'a pas forcément toutes les questions en tête et il faudrait ressortir avec de nouvelles questions. Et c'est vrai que ces questions-là ouvrent des perspectives dans notre quotidien, dans le développement, qui sont vraiment très très intéressants.
Alors il y a deux tables rondes qu'on peut citer, hein, deux exemples particuliers sur précisément l'alimentation, quel bilan pour notre santé, cultiver, manger et s'activer, hein,
c'est ça
que vous allez discuter.
Première table ronde avec Pierre-Henri Gouillon, généticien par exemple, Fabrice Papillon, journaliste scientifique. On aura également la réalisatrice Delphine Pruneau qui a réalisé le documentaire sur Arte sur les pollutions de l'air. Mais l'idée c'est vraiment de traiter ces questions-là avec qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Hein. On n'est pas là pour pour décliner tout ce qui ne va pas, mais au contraire, à travers cette complémentarité de vue, de voir un petit peu, le docteur Serog parlera effectivement de la malbouffe, mais aussi de comment peut-être mieux gérer notre bouffe au quotidien. Quels sont nos moyens aujourd'hui pour le faire?
Et la planète que nous réservons à nos enfants, ce sera la deuxième table ronde, ça, 17h-19h.
Voilà, avec un économiste, Dominique Bourg, hein, philosophe, bien connu. Ce sont vraiment de très très belles tables rondes. Les personnalités intervenantes ne se connaissent pas forcément, et c'est la complémentarité qui fera la richesse de ces débats.
Donc c'est Romainville, demain, première table ronde à 14h30.
C'est ça.
Toutes les informations sont en lien sur le site de La Tête au Carré.
Du haut de la montagne, le cours d'eau est un fil d'Ariane. Il les arde les champs et emporte les armes en avant. Quand t'approche les lumières de la ville, il sait se tenir tranquille.
La rivière, oh, à l'instant sur France Inter, dans notre club des Têtes au Carré, Mathieu Gounel, cosmochimiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et donc à l'origine de cette exposition Météorites, nos plus lointains souvenirs. C'est à voir donc à la galerie épisodique rue Nanette dans le 11e, jusqu'au 27 février, donc faut se dépêcher quand même, ça dure pas très longtemps. Et vous avez eu carte blanche, donc Mathieu Gounel, pour proposer donc une expo, une dizaine d'œuvres, c'est ça, pouvant faire penser aux météorites. Hein ?
Exactement. Donc c'est une carte blanche qui m'a été offerte par l'artiste Alexandra Roussopoulos dans le cadre d'un cycle d'exposition qui s'appelle Young Memories, donc un peu autour de l'idée de la mémoire, de l'idée du souvenir. Et j'ai eu une carte blanche pour un mois pour exposer des œuvres autour, en lien avec les météorites ou l'idée des météorites.
Ouais.
à la galerie épisodique.
Et donc, il fallait trouver aussi des artistes qui acceptaient de vous prêter leurs œuvres, comme Xavier Veillant, par exemple.
Exactement. Donc, c'était un travail de commissaire, de choisir des œuvres et effectivement de demander aux artistes soit d'en produire, soit d'en prêter.
Serge Poliakoff aussi.
Serge Poliakoff, dont une lithographie nous a été très gentiment prêtée par la galerie Pixie, Marie-Victoire Poliakoff. Et alors Serge Poliakoff, j'ai choisi Serge Poliakoff en raison de son travail sur la couleur et les formes, et qui m'a depuis longtemps évoqué certaines des images qu'on peut obtenir des météorites avec des microscopes optiques. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire une association entre une image de l'intérieur d'une météorite et un tableau de Poliakoff.
Donc, et l'artiste Mathieu Gounel également, donc vous-même, avec un film sur le désert d'Atacama. Alors vraiment un mini-film, hein.
Oui,
c'est d'abord une image fixe quasiment.
Oui, c'est un petit film que j'ai tourné dans le désert d'Atacama. C'est un plan fixe sur une météorite qu'on vient de trouver et qui ensuite est saisie par une main. Et j'essaye de filmer un petit peu à la fois la présence et l'absence.
Alors justement, ce cycle sur la mémoire en lien avec les météorites, pourquoi ? Parce que justement, ces objets transportent avec eux de la mémoire de notre système solaire.
Oui, les météorites sont des objets de mémoire d'une certaine façon, sont les archivistes de nos passés. Ils nous racontent scientifiquement les premiers millions d'années du système solaire. Donc on parle souvent des météorites comme archives de notre système solaire. Mmh. Et donc ils s'inscrivent très bien dans cette réflexion autour du souvenir et de la mémoire. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de nos plus lointains souvenirs. Parce que elles sont là un peu depuis toujours aussi. Je crois que les hommes toujours ont vu tomber les météorites, les ont utilisées, se sont interrogées. Et puis, elle suscite une réflexion, une rêverie sur la Terre, le ciel, puisque c'est des objets venus du ciel qui tombent sur la Terre.
Qui ont voyagé pendant des milliards d'années.
Exactement, qui ont voyagé pendant des dizaines, des centaines de millions d'années, qui existent depuis 4,5 milliards d'années, et qui font ce lien entre la Terre et le ciel. Donc, à la fois, elles nous enracinent, et en même temps, elle nous invite à lever nos regards vers d'autres réalités.
Ce sont des objets qui ont préexisté, justement, à la Terre, ou qui se sont formés en même temps ?
Ce sont des objets qui ont préexisté à la Terre, à la fin de la formation de la Terre, oui, qui sont plus anciens. Ouais. La plupart des météorites sont plus anciennes que n'importe quelle roche terrestre. Ouais.
Alors, quand on voit la Lune, par exemple, on voit vraiment les impacts de météorites qui sont très marqués. Est-ce qu'il y en a autant, d'ailleurs, sur notre planète, au fond, cachés maintenant par les océans, la végétation ? Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on a été bombardés comme la Lune ?
Oui, la Terre a été bombardée exactement de la même façon que la Lune, même un peu plus, parce qu'elle est plus massive. Mais en revanche, la Terre est une planète active, donc la tectonique des plaques a fini par effacer les cratères au fur et à mesure de leur formation.
Donc ces objets, vous allez les chasser, les trouver, donc, comme par exemple dans le désert d'Atacama. Et alors là, vous étiez en novembre, hein, par exemple, Mathieu Gounel, hein, vous partez régulièrement là-bas, vous faites de belles pêches, hein. Ça donne quoi alors quand vous
allez... On fait régulièrement de très belles pêches, on peut trouver jusqu'à plusieurs centaines de météorites, plusieurs centaines de météorites par campagne dans les déserts.
Ouais, avec des tailles plus ou moins importantes, vous avez vraiment des objets impressionnants.
Des tailles assez variables, depuis le petit pois jusqu'au ballon de rugby.
Ouais. Et donc là, ça a été le cas. Vous avez encore trouvé des belles pièces.
Là, ça a été le cas. Le désert d'Atacama, justement, est un autre lieu, je trouve, de rêverie, de méditation, un endroit où, évidemment, on se passe de smartphones et d'objets connectés.
Eh bien, oui, évidemment.
Et c'est aussi un lieu, justement, où on peut penser aux météorites autrement que scientifiquement. On peut penser au monde autrement que scientifiquement. Mmh. Et ouvrir aussi sur ce genre d'exposition comme scène.
Ouais. Quels sont les meilleurs spots aujourd'hui pour trouver des météorites ? Parce que j'imagine qu'en ville, à Paris, on a très peu de chance. Même si on voit, tiens d'ailleurs dans l'exposition, une photo assez amusante d'une femme. C'est une photo noire et blanc qui doit se passer aux États-Unis, j'imagine. On la voit entourée de deux policiers et on voit un trou dans son toit causé.
C'est un travail de Régine Petersen, une photographe allemande, qui a fait plusieurs séries de photographies autour de chutes de météorites, dont une en particulier sur une météorite en 1954 qui a blessé une femme.
Oui.
En Alabama. Donc la météorite a traversé le toit et est tombée sur la hanche de cette femme.
Ouais, donc elle témoigne.
La photographe Régine Petersen est revenue sur les lieux de cette chute, a refotographié un petit peu les protagonistes, les enfants des protagonistes. et les lieux de cette aventure.
Alors moi, ça m'a fait penser à cette histoire amusante qui s'était passée, je crois, en 2011, où il y avait une femme en région parisienne, comme ça, qui avait eu une météorite sur son toit et qui s'appelait Madame Comète. Hein. C'est quand même absolument génial. Les probabilités de pouvoir avoir une météorite quand on s'appelle Madame Comète sont quand même très limitées. Là. Je ne sais pas si du point de vue des mathématiques...
Elles ont aussi un sens de l'humour.
C'est ça. Eh bien, les météorites, on en voit aussi en France, il n'y a pas si longtemps que ça.
En quelques secondes, elle a affolé le ciel hier soir. Une boule de feu, blanche et verte, a transpercé la nuit noire de l'Est de l'Europe et de la France. S'agit-il d'un ovni ou d'une météorite? Ce témoin nous raconte.
J'étais à Unheim, juste à côté de Strasbourg, à vélo, et là, un petit bruit, j'avais quand même mon casque, et j'ai levé les yeux au ciel, et pendant, je pense, 4 ou 5 secondes, une énorme étoile filante, 10 ou 20 fois la taille d'une étoile filante standard. C'est vrai que j'ai eu peur pendant quelques secondes, parce que je me suis dit, est-ce que c'est un avion qui a explosé en vol, comme l'aéroport est à côté?
Le phénomène n'est pas rare. Chaque jour, 230 météorites de plus de 10 grammes tombent sur Terre depuis l'espace, soit 84 000 par an.
Voilà, et ça c'était en mars dernier, un sujet de France 2. 230 par jour, Mathieu Gounel, vous confirmez à peu près?
Oui, c'est à peu près le chiffre, ouais. Le chiffre grosso modo. Alors la plupart de ces météorites qui tombent quotidiennement sont petites, hein, et ne...
micrométéorites,
ne génèrent aucun danger. En revanche, il y a des météorites très, très massives qui peuvent tomber, qui tombent rarement et qui, elles, peuvent provoquer des dégâts. Et on pense en particulier que l'extinction Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années, a été due à l'impact de météorites.
Ouais, on en est à peu près sûr.
Oui, on en est
maintenant, voilà.
À peu près sûr. Ouais. Et donc, Évariste Richer a fait une pièce dans l'exposition autour de cette idée où il met une petite tranche, une petite pépite d'iridium entre deux baguettes qui représentent l'ère géologique du Mésozoïque et du Cénozoïque. Et donc, ça donne cette idée de la profondeur du temps un peu que suscitent les météorites.
Est-ce qu'on les scrute de près, ces objets dans le ciel, pour évidemment anticiper peut-être un jour la chute d'une grosse météorite?
On surveille le ciel. Enfin, le ciel est surveillé, bien sûr. Mais on peut observer, détecter les astéroïdes plus massif uniquement de 100 mètres, disons. Donc il y a une espèce de zone aveugle entre 50 mètres et 100 mètres où les objets sont à la fois relativement nombreux, difficiles à détecter, et s'ils tombaient sur Terre, pourraient être dangereux.
Les météorites qui ont joué un rôle essentiel dans l'apparition de la vie aussi, a priori?
Tout dépend un petit peu comment on formule ça, mais ce qui est certain, c'est que les éléments qui ont construit, les éléments chimiques qui ont permis de construire la vie, ont été apportés à la fin de la création de la Terre par ce qu'on peut appeler des météorites. En revanche, il faut vraiment oublier, je crois, la théorie de la panspermie qui consiste à dire que ce sont les météorites qui ont apporté la vie telle qu'elle existe, enfin en tout cas la vie en tant que telle sur Terre. Si les météorites ont apporté quelque chose, ce sont uniquement les briques de la vie.
Donc il faut nuancer, évidemment, et pas faire des raccourcis un peu hâtifs. Vous avez présenté une conférence d'ailleurs, Mathieu Gounel, toujours sur le lieu de l'exposition, le 18 février, c'est ça?
Exactement, oui.
Hein, belle étrangère, qu'est-ce que vous allez nous raconter à cette occasion? Pareil tout ce qu'il faut savoir autour de ces objets?
Oui, je parlais des météorites en général et peut-être insister effectivement sur l'idée que ce sont des objets qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'un temps lointain, qui viennent d'un espace assez lointain et qui nous apportent une part de rêve, je pense.
Et donc avoir cette exposition, ces œuvres d'artistes et à lire aussi Météorites à la recherche de nos origines aux éditions Flammarion. En attendant, une grande exposition, c'est l'année prochaine?
Oui, à partir d'octobre 2017, grande exposition qui durera 9 mois au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Et là, on pourra avoir de beaux spécimens.
Il devrait y avoir de magnifiques spécimens, puisqu'on on sera en collaboration avec le Muséum de Londres, et si on réunit les collections des deux musées, c'est la plus belle collection du monde.
Allez, en attendant, on va donc rue Nanette pour voir ses œuvres autour des météorites.
You brought roses and wine, then ran out of time, where you going to? Said you'll be back at nine, a comfort to my mind, am I a fool? Do you really care, my lover, my friend? Then stay with me till the bitter end. Or is this our last goodbye, no more roses and wine with you?
Alani.
La tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
Voilà, dernier invité de ce club, Philippe Chambon, avec ce livre « Vivre le meilleur des mondes hyper technologique et robotisé » édition Webeck, avec des illustrations extrêmement drôles de Wozniak, hein, qui vraiment a fait un boulot formidable. Donc vous présentez dans ce livre les découvertes au fond étonnantes, à venir ou existant déjà, et surtout les promesses, hein, les plus grandioses que nous offrent les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, les sciences cognitives. C'est un ouvrage très drôle, et c'est le fruit de votre travail de journaliste, Philippe Chambon, puisque vous avez travaillé longtemps à Sciences et Vie, donc vous avez été observateur.
Hein, voilà, j'ai parlé, j'ai écrit beaucoup sur ces technologies, avec en général un souci de rendre compte des faits,
oui.
De façon
sans plus, avis critique forcément d'ailleurs,
le plus objectif possible. Enfin, il s'agissait de donner de l'information et non pas d'apprendre à penser. Et là non plus, d'ailleurs, il s'agit pas d'apprendre à penser, il s'agit juste simplement d'une accumulation. C'est-à-dire que toutes les technologies dont il est question là-dedans sont des choses qui existent déjà ou qui sont en germe. Mmh. On a voulu les mettre ensemble et voir l'effet que ça, l'odeur que ça dégage, quoi. Et c'est assez effrayant. C'est-à-dire que c'est à la fois un parfum doucereux, tout à fait captivant, fascinant. Enfin, on parle d'intelligence artificielle, c'est quand même formidable. Un côté démiurge dans ce projet. Et en même temps, on se demande, mais pourquoi faire? Pour qui va tirer profit de ça? Est-ce que on va vraiment avoir une vie meilleure, plus facile, plus agréable? C'est vrai, on sera moins malade, on sera, les choses vont se passer beaucoup moins, on travaillera beaucoup moins, des robots vont travailler à notre place. Enfin, on a l'impression que tout va être vraiment très très bien. Et donc voilà, donc on les met ensemble et puis on regarde ce qui se passe et il y a des moments de panique.
En fait, ça,
des
moments et vous dites quand même que ça va rien résoudre vraiment au fond.
Bah, les vrais problèmes, on les attaque pas de front. On cherche des solutions technologiques. C'est-à-dire qu'on a des centrales nucléaires qui tombent en morceaux. On a des technologies pour les réparer. On a des déchets nucléaires dont on sait pas quoi faire. Bon, on les enterre. Après, on verra bien. L'essentiel, c'est qu'on les voit plus. Bah, y a une façon d'être qu'on appelle le solutionnisme ou le siliconisme. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'application qui va permettre de sortir de la difficulté dans laquelle on est. On ne fait jamais que reporter le truc. Mais tout ça est quand même guidé par une vision du monde, un projet quasi religieux, qui anime l'esprit des gens qui financent ces travaux. Alors ils s'en ouvrent ou ils s'en ouvrent pas d'ailleurs. Enfin, c'est pas trop le souci. Mais il y a derrière ça l'idée que on va pouvoir améliorer l'homme. Et alors il ne s'agit pas de le rendre meilleur sur le plan moral, il s'agit de le rendre plus performant.
Ouais, bah c'est exactement l'exemple de Randini. Tout à l'heure, on a ouvert l'émission avec ça quand même. Ça
illustre parfaitement. On est dans cette démarche-là, on va être plus performant.
Ouais. Alors, il y a déjà des courriels d'auditeurs. Il y a France, par exemple, qui nous dit, ce qui vous est simplement venu à l'esprit, que beaucoup de gens ne veulent tout simplement pas de ces technologies artificielles. C'est absolument antidémocratique de financer des scientifiques dans des recherches qui ne servent ni l'homme ni l'humanité. Alors là, je vais plutôt me retourner vers Randindi pour répondre à ce message. Qu'est-ce que vous répondez à France?
Ce que je pense, c'est que c'est clair qu'il y a beaucoup de start-up et qui ont reçu beaucoup d'argent, qui font des choses qui ne servent strictement à rien. Je suis le premier à le dire. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Par contre, ce qui est un petit peu délicat, c'est que ce qui est beau dans la science, c'est que parfois, on fait des découvertes, on ne sait pas encore à quoi ça sert, mais finalement, ça ouvre des portes dans d'autres domaines qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir exister.
Et donc finalement, la recherche un peu fondamentale, qui n'a pas un but commercial ou un but solutionniste particulier, qui a juste en fait un but de découverte et de compréhension, c'est tout aussi important.
Mais là, ce n'est pas le cas pour vous. Parce que vous avez envie de créer quand même des applications directement qui rapportent de l'argent. Vous n'êtes pas dans la belle recherche fondamentale.
Ça, c'est ce qu'on dit. Mais en fait, on a aussi une partie recherche. Donc, on est trois fondateurs, on est trois docteurs en sciences à la base. Donc, on faisait de la recherche. Et on a transposé ça dans une société où on a des gens qui travaillent sur des produits qui sont utiles immédiatement, d'autres qui travaillent sur de la recherche purement théorique sur le long terme. Parce que les deux sont nécessaires, en fait.
Mathieu Gounel.
Moi, ce qui m'intéresse un peu dans ces questions-là, c'est effectivement qu'implicitement, il y a une vision de l'homme, de l'avenir de l'homme et de son... qui est souvent assez peu abordée. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que devenir performant ? Est-ce qu'on veut véritablement devenir performant ? Est-ce qu'on est plus homme parce qu'on est davantage connecté ? Est-ce qu'on sera plus libre parce que un téléphone portable pourra asseoir à notre miroir ? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des questions qui sont des questions philosophiques derrière.
Oui, ce que je pense, c'est que cet auditeur qui nous dit que les gens n'en veulent pas, moi je ne suis pas sûr que les gens n'en veulent pas. Je crois que les gens ne sont pas sensibles à ça. Et à partir du moment où ça leur facilite la vie, ils sont d'accord. Le problème, c'est quel est l'usage qu'on fait de leur accord. Alors effectivement, ce n'est pas démocratique, mais je ne sais pas si on peut parler de démocratie. Je veux dire, tous les leaders à la fois d'opinion et économique dans ces domaines-là sont pratiquement tous des libertariens. Ils sont pour l'abolition de l'État, ils sont pour l'abolition du contrôle par des institutions. Ils ont une vraie philosophie qu'ils mettent en œuvre. Donc il faut le savoir. On est d'accord ou pas, mais je trouve qu'on le dit pas assez.
Michel nous dit « Je supporte plus la propagande technoscientiste. Au hasard, le deep learning, c'est là une des technologies les plus dangereuses depuis la bombe à neutrons, mais comme une poignée de scientistes hyper rémunérés, ils viennent jouer des gourous dans tous les coins du PAF, et on croit que leur spécialité est l'avenir du monde. » Le deep learning.
Ah ben je pense que c'est l'avenir du monde, oui, ça pour le coup.
Qu'est-ce que c'est en un mot.
Moi, je pense que le...
Alors Randindi, oui.
Le spécialiste aura même plus
en fait, l'idée du deep learning, c'est que plutôt que d'essayer de donner des concepts préfets à une machine, on lui donne de la donnée vraiment brute, donc des observations telles qu'elles ont été mesurées, et l'ordinateur en fait est capable d'apprendre par lui-même des concepts compliqués. Donc par exemple, on va lui donner les pixels d'une image, il va d'abord apprendre à reconnaître les contours, puis ensuite il va reconnaître les visages, puis ensuite il va comprendre, bah tiens, ça c'est un visage, j'ai reconnu ça là, ça doit être un homme. Et donc en fait, c'est génial parce que finalement, on n'a plus besoin de réfléchir en amont à comment structurer et représenter ces concepts-là. Pourquoi est-ce que c'est révolutionnaire ? C'est que ça ouvre un champ de possibles qu'on n'avait pas avant. Ça nous permet, en tant que chercheurs, d'aller beaucoup plus vite et de modéliser beaucoup mieux des choses extrêmement complexes dans le monde réel.
Philippe Chambon.
Oui, je parlais tout à l'heure de religion. La base du transhumanisme est une base religieuse. C'est quelque chose qui vient... Enfin, c'est une philosophie, une pensée qui vient d'un prêtre français, Teilhard de Chardin, qui était fasciné par la science et qui donnait comme projet à l'unanimité, à l'évolution, à l'humanité et à l'évolution, de tendre vers un point dit Oméga, qui était le point où, finalement, l'humanité deviendrait pur esprit. Et on est très proche de cette direction-là quand on pense à ces intelligences artificielles qui vont intégrer l'intelligence humaine. Et il y a des gens qui sont en train de travailler au transfert du contenu de leur cerveau dans les machines. Alors c'est très futuriste, mais on n'en est pas très loin.
Alors dans les exemples que vous donnez, Philippe Chambon, la géo-ingénierie, on en avait beaucoup parlé au moment de la conférence sur le climat. Hein. C'est comment essayer de résoudre le problème du réchauffement climatique en allant saupoudrer les nuages, par exemple, de particules. Bon, il y a tout un tas d'idées, ça, elles sont assez connues maintenant. Les implants cérébraux, là aussi. Est-ce que vous rêvez que votre ordinateur vous comprenne, et bien vous connectez votre cerveau, tout simplement.
C'est exactement ce sur quoi on est en train de travailler et sur quoi travaillons.
Ouais, l'invisibilité des soldats, par exemple, nos soldats invisibles, ça aussi c'est plausible.
Oh, c'est oui, enfin il y a déjà des avions invisibles, des tanks invisibles. Oui, enfin ça fait partie de toutes ces petites choses dans plein de domaines différents.
Ouais. La police prédictive, ça c'est extraordinaire.
Ça c'est déjà en place.
Si vous avez peur des voleurs et des assassins, eh bien les criminels se feront pincer avant même d'agir.
Ouais. C'est Minority Report, le film.
Ouais. Randindi, c'est plausible marrant, ça aussi.
Ouais, en fait, nous au début, avant de devenir un peu une start-up, on était un labo de recherche en intelligence artificielle. On avait fait un projet autour de pas de la police prédictive, mais en fait de la prédiction de risque de crime. Ouais. Donc on ne savait pas identifier qui allait faire un crime, mais on pouvait dire.
Et à quel endroit aussi.
On disait plutôt si tu es dans cette rue, tu as plus de chances de te faire agresser.
Le qui reste la limite, c'est que les polices n'ont pas encore accès aux individus.
Enfin, voilà.
Dès qu'ils ils iront accès, ça sera terminé.
Ouais, et les souris, bon modèle aussi dans les laboratoires pour essayer d'imaginer tout ce qu'on pourrait faire sur l'homme. On en parlait tout à l'heure avec la longévité. Hein.
L'essentiel, c'est qu'on ne soit pas dérangé et qu'on soit heureux.
Et les dessins de Wozniak sont là pour nous faire sourire aussi autour de ces thèmes qui nous interpellent. Hein. Vive le meilleur des mondes, hyper technologique et robotisé, Philippe Chambon aux éditions Houellebecq.